Et donc, que se passe-t-il si à horizon 2 ans, on n'est pas en capacité d'amortir BGE2, toute la créative house n'est plus rentable? Qu'est-ce que ça veut dire pour un projet de cet ordre-là? Est-ce que ça veut dire des licenciements à moyen terme? Ça, aujourd'hui, quand on leur pose la question, alors qu'ils sont censés avoir pensé leur restructuration et qu'ils nous informent là-dessus en vue de nous consulter, ils sont incapables de répondre. C'est un véritable problème.
Depuis le studio 01 de Blueprint, je m'appelle Yann Rieder et vous écoutez le jeu vidéo. Il y a 2 semaines chez Ubisoft, c'était la grève. La restructuration proposée par la direction ne passe pas pour les syndicats français qui ont même déployé la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, sur le piquet de grève de Saint-Mandé, près de Paris. C'est donc le moment idéal pour s'intéresser de plus près au rôle syndical dans le milieu du jeu vidéo. Pour en parler, j'ai interviewé Clément Montigny, senior online programmeur et délégué syndical du STJV à Ubisoft Montpellier. L'occasion d'ailleurs de toucher 2 mots sur la situation particulière du studio de Montpellier dans l'Empire Guillemot. Dans la deuxième partie de l'émission, Antoine Villemain, un journaliste particulièrement cultivé en matière d'histoire des religions, viendra disséquer Hadès 2 en studio, entre autres pour donner son avis sur l'usage que cette suite fait de la mythologie grecque. Enfin, incroyable mais vrai, j'ai joué à des jeux et je vais vous en parler. Il s'agit de Mario Tennis Fever, de Dear Me I Was et de Rayman 30th Anniversary Edition. Vous écoutez le jeu vidéo, c'est parti. En ce mois de février, nombre d'employés d'Ubisoft ont montré leur colère et leur fatigue face à leur direction en réponse à l'annonce d'une grande restructuration de l'entreprise, incluant la réorganisation des activités du groupe autour de plusieurs pôles thématiques, un plan de départ volontaire de 200 personnes au siège parisien, la fermeture de 2 studios et des licenciements dans 5 autres, l'arrêt de 6 projets et le report de 7 autres, ou encore la fin annoncée du télétravail, hormis un petit nombre de jours par année. Face à ce tableau, la position syndicale passe entre autres par la grève pour faire pression sur la direction et demander mieux. Pour parler de tout cela, mon invité a aujourd'hui presque 12 ans de boîte, il est senior online programmeur chez Ubisoft Montpellier et a travaillé sur des jeux comme Prince of Persia, The Lost Crown, Ghost Recon Breakpoint ou encore Beyond Good and Evil 2. Il est également délégué syndical STJV au syndicat des travailleuses et travailleurs du jeu vidéo à Ubisoft Montpellier. Donc, Clément Montigny, bonjour.
Bonjour et merci pour l'intérêt que vous portez à nos luttes.
Pour commencer, le rôle de délégué syndical, en quoi consiste-t-il au-delà du fait qu'il s'additionne à votre travail dans le studio?
En fait, dans une entreprise en France, il y a ce qu'on appelle les élections professionnelles, en moyenne une fois tous les 4 ans. Lors de ces élections, on peut présenter des listes. Il y a 2 tours. Le premier tour, c'est un tour où il y a ce qu'on appelle un monopole syndical, où des organisations syndicales peuvent se présenter. Et c'est sur ce premier tour-là qu'on va déterminer la représentativité de chaque syndicat. Dès qu'un syndicat fait plus de 10% des votants, il est représentatif. Et de cette représentativité émane le droit d'avoir des représentantes, représentants syndicaux, donc des délégués syndicaux, qui sont les interlocutrices privilégiées des directions pour tout ce qui est négociation, tout ce qui est en fait représentation du syndicat. Au STJV, le rôle de délégué syndical, pour lequel j'ai l'honneur d'avoir été désigné en fait, c'est pas un rôle de leader, c'est un rôle qui est attribué à un camarade, une camarade, mais nous avons un fonctionnement très horizontal, donc il faut que quelqu'un s'y colle, en l'occurrence pour Montpellier, c'est moi sur cette mandature, et c'est un immense honneur, mais ça ne fait pas de moi le chef de la section ou quoi que ce soit, juste le représentant du STJV à Ubisoft Montpellier et son porte-parole pour ce moment-là. Et c'est aussi du coup moi qui suis impliqué dans la plupart des négociations avec le STJV, à Montpellier, et parfois aussi au niveau national, puisque pour le moment, il n'y a pas de structuration sociale d'Ubisoft au niveau national. C'est vraiment entité par entité. Et par contre, ça va voir le jour au printemps prochain, suite à quelques discussions, négociations qui sont devenues des procès en justice que nous leur avons intenté et que nous avons remporté.
Sur les transformations qu'on voit actuellement chez Ubisoft, c'est-à-dire donc la restructuration, la fin du télétravail, les licenciements, toute cette situation, est-ce qu'elle est propre à Ubisoft ou est-ce qu'elle reflète selon vous ce qu'on voit dans l'industrie depuis, on va dire, 2022, c'est-à-dire un gigantesque serrage de vis après la stratégie expansionniste des années Covid ?
Très tôt, les travailleuses du secteur ont levé l'alerte et ont dit « attention, c'est un effet d'aubaine, le jeu vidéo ne va pas devenir le nouvel Eldorado, c'est juste que là, en ce moment, on est toutes et tous confinés, donc les gens jouent plus, attention à ne pas faire n'importe quoi avec tout cet influx d'argent. » Bien évidemment, comme trop souvent dans notre industrie, et je pense qu'on y reviendra plus tard, nos patronnes et nos patrons ne nous ont bien évidemment pas écoutés. Se sont dit ça y est, on va toutes et tous devenir milliardaires. Ils ont commencé à investir n'importe comment, dans des NFT, dans de la blockchain, tous ces mots, tous ces concepts un peu hype dont aujourd'hui on n'entend plus trop parler en réalité. Ils ont aussi grossi un peu n'importe comment et maintenant on se retrouve avec un contexte où soudainement il n'y a plus d'argent parce qu'on a en réalité un retour à la normale. Et si vous prenez l'état aujourd'hui du jeu vidéo en 2026, on n'assiste pas à un crash, on assiste juste à un retour à la normale. Et si on avait eu une croissance constante entre avant les années Covid et maintenant, on aurait eu une courbe continue jusqu'au point où on en est aujourd'hui. Sauf que comme il y a eu ce pic en 2020, ça donne l'impression d'un crash. Ça, c'est pour le secteur en général. Ubisoft fait partie du secteur, c'est l'un des premiers employeurs du secteur en réalité, avec 17 000 salariés à travers le monde, 3 700 en France actuellement. Donc oui, il y a aussi des mesures qui sont mises en place, il y a des plans d'austérité, on en est au troisième là, qui vient d'être annoncé, et bien évidemment, il y a eu aussi, on va dire ce que nous jugeons d'un point de vue syndical, être du grand n'importe quoi au niveau des investissements et de la stratégie sur ces 5-6 dernières années, avec justement des incursions dans les NFT, dans la blockchain, des investissements douteux, des choix douteux aussi, des choses qui ont été remontées là encore et sur lesquelles nous n'avons jamais été écoutés. C'est un petit peu ça le motif derrière cette grève en réalité aussi. C'est cet autoritarisme forcené qui est un mode de fonctionnement depuis toujours de l'entreprise, qui dans cette période-là devient de plus en plus visible et insoutenable pour un paquet de travailleuses. Et c'est ça que nous contestons. Et après, il y a des applications concrètes de tout ça, on en parlera peut-être plus tard, mais les fermetures de studios, la fin de certains projets annoncés alors que dans certains cas ils étaient quasiment aboutis, je pense par exemple à Prince of Persia, le remake qui était fait à Montréal, et bien évidemment les mesures annoncées absolument, pardonnez-moi l'expression, absolument dégueulasses sur le télétravail où on impose à tout le monde de revenir sur site 5 jours.
C'est juste pour qu'on ait bien la compréhension du truc, c'est une manière finalement d'acter que le dialogue entre la direction et les collaboratrices, les collaborateurs, est rompu depuis un bon moment, qu'on ne s'écoute plus finalement.
S'est-on écouté un jour en réalité ? A-t-on un jour été écouté ? Je ne pense pas. Mon expérience en 12 ans d'Ubisoft, c'est un management ultra vertical. C'est pas que mon expérience, c'est l'expérience de la plupart des travailleuses d'Ubisoft que vous pourriez interviewer d'ailleurs. C'est un fonctionnement où vous avez une hiérarchie tout en haut qui vous dit « on décide, vous exécutez, l'entreprise c'est pas une démocratie ». C'est quelque chose que nous contestons depuis toujours, depuis qu'on s'est fondé en tant que STJV, depuis qu'on est présente et présent à Ubisoft. La chose qui change aujourd'hui, c'est que on voit les conséquences concrètes de cette méthode de management, de ce fonctionnement-là. On est en train d'aller dans le mur de par leurs décisions à elles et à eux, pas de par les choix des travailleuses, de ce qui elles font, qui finalement n'ont que très peu de marge de manœuvre et subissent comme tout le monde ici. Et ont la même défiance que les joueuses et les joueurs vis-à-vis d'Ubisoft et les investisseurs aussi qui en ce moment ne sont pas tendres avec l'entreprise.
On viendra à la question du télétravail ensuite, mais pour le reste, quel est l'impact de cette restructuration, très spécifiquement sur Ubisoft Montpellier ? Parce qu'on parle de ces creative houses qui sont censés réunir différentes licences, différents mondes, en quelque sorte. C'est comme ça que ça a été présenté, si j'ai bien suivi les choses. Il y a également la question d'Ubisoft Vantage, qui est le fruit du partenariat avec Tencent. Là aussi, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois résumer les choses de manière relativement OK. Où est-ce que se situe Ubisoft Montpellier dans tout ça ?
Alors effectivement, si vous me permettez juste pour recadrer, effectivement donc Ubisoft Vantage Studio, c'est la toute première Creative House qui est issue du deal avec Tencent, dans laquelle ils ont mis les trois poules aux œufs d'or, à savoir Assassin's Creed, Far Cry et Rainbow Six Siege. Ces trois marques-là sont allées dans cette Creative House-là. Et le concept de Creative House, donc cette restructuration, c'est vraiment centré par les marques. C'est un concept un peu marketing, pour être honnête. On a eu deux sessions de présentation de tout ça. À chaque fois, on leur a demandé, d'accord, vous nous parlez des marques, vous nous parlez de l'entreprise, mais vous nous parlez jamais des gens qui font les jeux. Où se situent les gens dans tout ça ? et ils n'ont jamais été capables de nous répondre. Et encore aujourd'hui, il y a de nombreuses zones d'ombre là-dessus. On pourra y revenir plus tard si vous le souhaitez, notamment sur qui va être à la tête, comment vont fonctionner les bilans financiers de toutes ces entités. Dans le cadre de la question que vous me posez, qui est la position d'Ubisoft Montpellier dans tout ça, Ubisoft Montpellier, on n'est pas les plus mal lotis, pour être honnête. On a atterri dans la quatrième Creative House, qui a été annoncée ce soir là dans le rapport financier que vous pourrez consulter, avec les marques Rayman, BGE2, Prince of Persia, Trackmania et Might and Magic. Et on se retrouve donc avec les studios de Milan, de Düsseldorf, de Nadeo, sauf erreur de ma part. Et donc nous, on est dans une Creative House. Annecy et Bordeaux ne le sont pas. Alors que bah, le studio d'Annecy a créé la marque Riders Republic et elle atterrit. Et cette marque-là là, a été enlevée à Annecy et mise dans la Creative House 3. Je trouve ça particulièrement violent pour les collègues et les camarades d'Annecy. De la même manière, Bordeaux a été très impliqué sur Assassin's Creed Mirage et Assassin's Creed Shadow. Ils ne sont pas dans Vantage Studio. Les deux ont été mis sur le banc, de côté, dans ce qu'on appelle le Creative Network. Et le message qu'il leur a envoyé, c'est dorénavant, vous serez surtout studio support. Et je trouve ça très difficile pour elle et pour eux qui n'ont pas démérité sur toutes ces productions-là. Maintenant, au niveau d'Ubisoft Montpellier, bah, bien évidemment, la direction, elle se veut rassurante. Elle nous dit, écoutez... ne vous en faites pas, on est tombé dans une belle maison avec des belles marques, notre avenir est assuré sur le moyen terme. Ils ne sont pour autant pas capables de s'engager sur une absence totale de licenciement sur 2-3 ans, parce qu'en réalité, ils n'ont pas cette visibilité-là. Quand on nous a présenté cette Creative House 2 jours avant l'annonce officielle de cette nouvelle structure, donc c'était, me semble-t-il, le 19 janvier, quand on l'a présenté aux représentantes et représentants du personnel, on nous a dit qu'il y aura aussi Montréal dedans, un bout de Montréal qui travaille sur Prince of Persia. 2 jours plus tard, ce bout de Montréal avait disparu avec le remake de Prince of Persia. Et on nous a jamais, par contre, parlé de changement sur le télétravail, de la fin de tous ces projets-là, ce qui met aussi en cause un peu l'honnêteté des informations qu'on a reçues. Démontre aussi que la direction locale, quand elle nous présente des choses, elle n'a pas toutes les informations elle-même. Et c'est un vrai problème en termes de fonctionnement. Quand les représentantes et représentants du personnel sont informés en France, ils doivent l'être correctement pour pouvoir rendre un avis. Ça ne nous semble pas être le cas aujourd'hui. On va regarder ce qu'on peut faire vis-à-vis de ça, même d'un point de vue juridique. Et donc, bah, pour l'avenir de Montpellier, si je vous parle de tout ça, c'est aussi parce que ça entraîne, d'un point de vue des salariés, des travailleuses d'Ubisoft, une rupture de confiance vis-à-vis de leur direction. On nous a caché des choses bah, sur le télétravail, et il y a cette annonce ultra-autoritaire qui tombe de nulle part. En plus de ça, j'ajouterais que tout le discours en interne du management sur les Creative House, c'est de nous dire, vous avez, ça fait des années que vous demandez plus d'autonomie, on va vous donner plus d'autonomie, il va y avoir ces 5 Creative House avec un bilan comptable, un profit and loss au niveau de ces Creative House, et vous aurez voilà, un peu plus la main sur les projets et tout. Ce discours-là, qui pouvait être reçu favorablement par certains, nous, on n'y croyait pas trop, hein, pour être honnête, surtout quand on voit le truc qui est poussé d'un point de vue marque, mais il y a des salariés qui, eux, elle et eux, l'ont reçu très positivement. Bah, c'est complètement annulé quand on vous dit derrière, vous revenez 5 jours sur site, parce que, et j'insiste bien là-dessus, parce que aucun argument valable à date ne nous a été donné. Nous, nous pouvons affirmer par contre qu'aujourd'hui, on n'a jamais constaté aucun recul lié au télétravail. Donc ça a été entièrement balayé, ça a été complètement annulé. Aujourd'hui, c'est la défiance qui règne, et moi, je ne peux pas dire honnêtement à mes collègues, j'aimerais pouvoir leur dire, écoutez, ça va aller, etc. à Montpellier. Le fait est que on vit toutes et tous avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. La direction l'a montré par ses revirements, et je ne peux pas leur assurer que demain, bah, puisqu'on a un profit and loss au niveau de la Creative House de Montpellier, et que dans cette Creative House, il y a un grand projet au long cours qui s'appelle BGE2, qu'un jour il va falloir l'amortir, ne peut pas vous dire aujourd'hui que bah, les marques qui ont été mises en face, Rayman, Les Lapins, Anno, que j'ai oublié tout à l'heure aussi, et dans cette Creative House, suffiront à générer des rentrées suffisantes pour amortir un projet au long cours comme BGE2. Et donc, que se passe-t-il si à horizon 2 ans, on n'est pas en capacité d'amortir BGE2, toute la Creative House n'est plus rentable? Qu'est-ce que ça veut dire pour un projet de cet ordre-là? Est-ce que ça veut dire des licenciements à moyen terme? Ça, aujourd'hui, quand on leur pose la question, alors qu'ils sont censés avoir pensé leur restructuration et qu'ils nous informent là-dessus en vue de nous consulter, ils sont incapables de répondre. C'est un véritable problème. Et c'est rassurant pour personne, en fait.
Voire même, et pour compléter sur ce sujet, j'ai lu ce matin même dans Game Developer que l'idée de potentiellement céder à la découpe ou intégralement des Creative House est pas quelque chose qui est exclu dans un futur plus ou moins lointain. Donc ça, ça soulève naturellement ce genre de questions. Oui.
Personne n'est dupe en réalité là-dessus. Tout le monde sent un petit peu ce genre de choses venir. Est-ce que ça va vraiment se produire ? Je ne peux pas vous le dire. On avait un système avant les Creative House. C'est pas la première structuration transformation qu'on subit. On avait un système de zones qui là était plus pensé comme des regroupements géographiques de studios. Ubisoft Montpellier était avec ses amis de France, d'Italie, d'Espagne et de Chine, dans ce qu'on appelle la zone 2. Il y avait un directeur de zone. Et là, déjà, on trouvait que ça ressemblait à de la vente à la découpe. Pour être honnête, un système qui se base non plus sur des zones géographiques, mais sur des marques, qui est beaucoup plus orienté marketing, ça ressemble encore plus à de la vente à la découpe. Quand vous constatez en plus que la vraie première Creative House, c'est celle où il y a une part qui a été allouée à Tencent, voilà, ça ne demande pas beaucoup de réflexion pour en arriver à cette conclusion-là. Maintenant, on a une direction groupe qui nous a montré qu'elle était imprévisible et qui parfois ne va pas penser jusque-là. Donc, on ne va pas aller jusqu'à faire cette assertion parce qu'on pourrait être surpris.
La direction, et on le lit dans des communications qui, là encore, sont ont fuité dans la presse ces derniers jours, la direction dit vouloir de la croissance durable. Je vais orienter cette question dans un sens, entre guillemets, positif. Qu'est-ce que vous, au STJV, vous souhaitez pour l'entreprise, sachant que donc, le projet de la direction, c'est la croissance durable?
Quand il parle de croissance durable, il nous parle encore une fois de chiffres. Nous, on souhaite parler des gens et des salariés de cette entreprise. On a des revendications d'un autre ordre. Oui, on pense que la boîte peut aller mieux et peut être redressée, mais pas avec une direction autoritaire et qui prend des décisions qui sont complètement décorrélées des réalités de production. Je veux dire, les derniers choix qui ont été faits sur le télétravail, ces fins de projet, personne ne les comprend, même en très haut lieu. C'est vraiment la direction groupe qui a pris ces choix-là. Nous, ce que nous demandons, ce sont trois choses. La première, elle est très simple, d'écouter enfin les travailleuses d'Ubisoft. Parce que ce sont ces personnes-là qui produisent les jeux, qui produisent la valeur. Donc la croissance, elle va venir de ces personnes. Elles ont une expertise, elles sont là depuis un certain temps, elles connaissent leur métier. Donc ce serait bien d'enfin leur donner la parole et sur tous les sujets qui comptent, sur les salaires, sur les projets, sur leurs conditions de travail, et arrêter de les traiter en simples exécutantes et simples exécutants. Ça, c'est notre première grande revendication avec cette grève, et on est sincèrement convaincu qu'un changement de pied là-dessus peut aider à redresser l'entreprise et aider globalement sur la conduite des projets. Ensuite, sur la deuxième revendication, elle est très simple, retirer immédiatement le retour au bureau en présentiel imposé à 5 jours et ouvrir des négociations avec les syndicats en vue de conclure un accord de télétravail qui serait malin et pas un truc coercitif, qui serait quelque chose qui permettrait à chacune et à chacun d'adapter son poste en fonction de ses besoins, parce qu'on n'a pas toujours besoin d'être en 100% télétravail, on n'a pas toujours besoin d'être tout le temps sur site, ça va dépendre des temps de production en réalité. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième, qui passe un peu sous le radar, mais qui est absolument vitale, puisqu'on parle de conditions de travail. Aujourd'hui encore, il n'y a pas de process de signalement pour harcèlement et violence sexuelle et sexiste à Ubisoft qui inclut systématiquement les représentantes et représentants du personnel. C'est une honte absolue après les différentes révélations qui ont eu lieu en 2020. Il existe encore des canaux complètement opaques qui passent par des entreprises privées et des RH au siège et qui sont vraiment complètement opaques. Cela doit absolument cesser parce que c'est ce qui a été dénoncé lors du MeToo du jeu vidéo en 2020. C'est ce qui a permis de protéger des agresseurs pendant de très nombreuses années. Et ça a été notamment largement couvert lors du procès qui a eu lieu à l'été dernier de trois ex-cadres qui ont été définitivement condamnés à cette occasion. Et nous, on est en train de négocier actuellement sur ces choses-là, et c'est un non clair et net de la direction pour le moment. Ça n'est pas entendable en fait. On se demande ce qu'ils attendent. Est-ce qu'ils attendent que d'autres drames arrivent et qu'il y ait un nouveau MeToo du jeu vidéo? On ne peut pas en arriver là en fait. On doit pouvoir avoir une vraie discussion dès maintenant. Donc voilà.
Vous relevez ce point-là, et effectivement, il avait défrayé la chronique dans un premier temps autour des années 2020, puis ensuite, enfin au début des années 2020, puis ensuite, plus récemment, lors du procès. J'en bondis rapidement sur ce que vous avez dit tout à l'heure à propos d'Ubisoft Montpellier. La situation est pas si mal, finalement, dans cette réorganisation. C'est une sorte d'ironie de l'histoire, parce qu'Ubisoft Montpellier, que ce soit avec le cas des conditions de travail dans le cadre du projet BGE2, ce qui a été là encore une fois relaté dans la presse au sujet de la manière de gérer de Michel Ancel, différentes choses comme ça, Ubisoft Montpellier n'était pas si bien loti que ça, si on en croit en tout cas ce qui était sorti dans la presse ces dernières années. Donc voilà, je le relève parce que je pense que pour un certain nombre de gens qui nous écoutent et qui ont suivi l'actualité ces dernières années, Il y a une sorte de déconnexion, au final, entre le sort qui est fait à Ubisoft Montpellier, qui n'est pas si terrible, pas si horrible que ça, somme toute, dans le contexte actuel, et de l'autre côté, effectivement, ce problème-là, qui est visiblement un problème de fond, par rapport à Ubisoft en général, mais qui a été saillant à Montpellier, en tout cas de ce qu'on sait pendant un bon moment. Voilà, c'était un commentaire de ma part. Sur le télétravail, et pour en terminer avec cette dernière question, du point de vue d'une personne en situation de handicap comme moi-même, l'annonce du retour sur la place de travail 100% en présentiel pose la question, outre celle donc des gens qui vivent loin du lieu de travail par exemple, de celle des personnes en situation de handicap dont l'emploi peut être facilité par le travail à distance. Selon vos informations, est-ce que le plan d'Ubisoft prévoit une exception généralisée vis-à-vis de la santé, une exception au cas par cas, rien du tout? Est-ce que ça a été précisé ça?
Alors déjà, merci d'aborder cet aspect-là sur le télétravail qui est trop souvent oublié. Bien évidemment, le retour en présentiel imposé à 5 jours, c'est une mesure 100% validiste, complètement. Maintenant, je tiens à rassurer les personnes qui, comme moi aussi, en réalité, sont en situation de handicap. Ils n'ont pas le choix. C'est même pas une question de volonté de l'entreprise. Le droit français les y oblige, sous réserve que les personnes qui sont dans cette situation-là fassent une reconnaissance de travailleuse handicapée, ce qu'on appelle une RQTH, qui est un process long, qui peut être accompagné par l'entreprise, c'est un peu le cas d'Ubisoft, et qui se déclare comme tel. Mais dans ce cas-là, après, il y a des procédures avec la médecine du travail qui va imposer l'aménagement du poste de travail. Donc j'invite toutes les personnes qui sont dans cette situation à entamer cette procédure-là, parce que c'est plus une protection qu'autre chose. Et ça, Ubisoft n'a pas le choix, ils vont devoir s'adapter pour pouvoir permettre aux personnes en situation de handicap de travailler à distance si c'est nécessaire.
Clément Montigny, vous êtes délégué syndical STJV à Ubisoft Montpellier, où vous travaillez en tant que senior online programmeur. Merci d'avoir répondu à mes questions.
Merci encore d'avoir pris le temps.
Si vous souhaitez aider cette émission, abonnez-vous en podcast sur l'application de votre choix. Donnez-nous une note et un feedback via la page Apple Podcast ou Podcast Addict. Et enfin, soutenez-nous par un don régulier ou ponctuel sur www.blueprint.pm/don. Vous écoutez, le jeu vidéo ne peut se développer que grâce à vous. Sortez les casquettes et les shorts, car le Mario Tennis nouveau est arrivé sous le nom de Mario Tennis Fever. Publié sur Nintendo Switch 2 par Nintendo eux-mêmes et développé par le studio historique de la licence Camelot, il arrive 25 ans après celui sur Nintendo 64, premier développé par Camelot, et 30 ans après son vénérable ancêtre, Mario's Tennis sur Virtual Boy. L'éditeur m'a fait parvenir un code de test pour Mario Tennis Fever. Alors, ce qu'il faut savoir, en ce qui me concerne, c'est que mon maître étalon chez les Mario Tennis, c'est Mario Power Tennis sur Nintendo GameCube, auquel je jouais avec un ami de l'école primaire et du cycle d'orientation. Je salue ici Bruno, avec qui on jouait à différents trucs sur GameCube, y compris, je crois, Mario Kart Double Dash. Je crois qu'on jouait également à du Mario 64, fut un temps. Et puis, ce fameux Mario Power Tennis, qui était très sympa. Les deux raisons pour lesquelles, à mon avis, il était très sympa, c'est que d'un côté, on avait des courtes qui étaient référentielles, franchement référentielles de l'univers Mario, avec par exemple un court Wario façon usine, un court Luigi's Mansion avec le manoir en fond, mais aussi des pouvoirs spéciaux par personnage qui ont une petite attaque super comme ça, qui peuvent déclencher de temps à autre, et cette attaque super, elle est personnalisée par rapport à qui est ce personnage. Au fond, c'est un peu comme un Final Smash dans Super Smash Bros. Et dans ce cas, dans le cas de Mario Tennis Fever, on est aussi sur du tennis arcade, on est aussi sur du Mario Tennis, donc avec un twist, et ce twist, ce n'est pas que le personnage a un pouvoir spécial, mais les raquettes ont un pouvoir spécial. Il y a tout un tas de raquettes à débloquer au fur et à mesure de l'aventure un joueur, mais aussi des différents modes, des personnages à débloquer effectivement aussi en fonction des différents modes. Et est-ce que c'est une bonne idée ? Je trouve que ça ajoute une méta qui n'est pas illisible pour les nouveaux joueurs. Et en ça, je pense que Mario Tennis Fever est un bien meilleur jeu pour accueillir un nouveau public que Mario Tennis Aces, qui avait essayé beaucoup de choses en même temps, notamment une jauge qui permettait aux personnages de geler le temps, de faire une attaque spéciale en visant avec le gyroscope, enfin il y avait plein de trucs comme ça, ils mélangeaient, ils expérimentaient plein de choses. Là, Mario Tennis Fever revient un petit peu entre gros guillemets aux fondamentaux avec seulement un gros truc, et ce gros truc, c'est en fait, au moment où vous déclenchez cette raquette Fever, peu importe son pouvoir, l'effet va avoir lieu pour la plupart des raquettes Fever sur une zone qui est autour de là où la balle va toucher dans le camp adverse, une fois que vous avez déclenché votre pouvoir spécial. Or, si le personnage adverse, si le concurrent, vous renvoie la balle avant qu'elle ne touche le sol, et qu'elle touche le sol de votre côté, c'est vous qui vous prenez l'effet, c'est-à-dire la barre de feu à la Super Mario Bros, ou alors la zone de boue, ou alors la zone de glace, ou alors la zone de feu, ou alors la zone électrique, etc., etc. Ça rentre en compte avec une jauge de points de vie qui fait que vous allez marcher plus lentement comme Malus, vous allez voilà, vous cogner contre cette zone d'effet et potentiellement louper une balle, voire même si vous jouez en double, vous allez avoir un retrait de quelques secondes et votre partenaire de double va avoir la lourde tâche de jouer seul contre les deux adversaires si jamais ça se produit de cette manière-là. Donc c'est quelque chose d'assez malin parce que ça ne complexifie pas tant que ça les contrôles, par exemple, ou ce qui se passe à l'écran. Ça permet d'ajouter cette dose de fun à la Mario Kart avec des items, là en l'occurrence, comme je le dis, les raquettes elles-mêmes, sans trop complexifié. Au fond, c'est vraiment une version améliorée de Mario Tennis Aces en termes d'efficacité de gameplay, comme je l'ai dit, et également en termes visuels. Bon, les nuages qui passent et qui projettent une ombre sur le court de tennis, c'est tout bête, mais ça me fait un petit effet. Je trouve que c'est joli, ça rend bien, ça ajoute une dose de réalisme cartoon que j'apprécie particulièrement. J'apprécie moins la fleur cancan de Super Mario Bros. Wonder qui commente les matchs au-delà du score, qui est toujours commenté par Papy Champy. Qui a toujours une voix délicieuse d'ailleurs, Papy Champy, qui est inimitable. La fleur cancan, elle, commente tout et à la manière de ChatGPT, a pas grand chose de négatif à dire à propos de qui que ce soit, ce qui signifie qu'elle vaut mieux être désactivée. Il y a une option pour ça dans les paramètres, une des rares options des options du jeu. Pour autant, ce qui est dommage, c'est que ça ne la désactive pas partout, donc dommage. Comparé à Mario Party Tennis, je trouve que les terrains continuent à manquer de personnalité. Par contre, comparé à Mario Tennis Aces, je trouve qu'on fait un progrès dans cette direction. Donc on est à mi-chemin. Les effets sonores sont un poil bizarres, et je parle pas en disant ça des balles de tennis sur le sol ou des trucs dans le genre, mais vraiment les effets sonores dans les menus m'ont un peu marqué, tellement ils font un peu klaxon clown bizarre par moment. Le mode histoire a beaucoup déçu. C'est pas la première fois que le mode histoire déçoit d'un Mario Tennis dans la presse. Personnellement, je m'en fiche. Je ne suis pas monté sur ce Sonic cycle de se dire « Ah, il va y avoir un mode histoire !» et ensuite d'être déçu par ça, parce que ça fait depuis un moment maintenant que Camelot utilise un pseudo mode histoire pour en fait familiariser les joueurs quand ils sont seuls, avant qu'ils jouent en multi avec des gens, aux différents contrôles, aux différents gimmicks, aux différents terrains, aux différents personnages, aux différentes raquettes. Donc, je m'en fiche. Et au demeurant, j'aime beaucoup la tour des défis. Il y a plusieurs tours des défis où il faut réaliser 10 défis différents à la suite avec seulement 3 vies. On nous impose un challenge avec un personnage, etc. à la manière des events de Super Smash Bros. Et ça, je trouve ça super malin d'avoir décidé d'appliquer ça au tennis. Au fond, c'est difficile de varier le tennis même si on est dans une interprétation très arcade. Et dans ce cas, si on fait pas, disons, ma recette pour le meilleur Mario Tennis, qui serait des pouvoirs spéciaux personnalisés en fonction des personnages et des terrains, je sais pas, ce serait sympa d'aller par exemple dans New Donk City faire du tennis, ou d'aller faire du tennis à proximité d'une piste, d'un circuit de Mario Kart par exemple. Si on va pas faire ça, au moins qu'on aille dans la direction d'ajouter des nouveaux challenges, et ça, j'apprécie particulièrement. Donc au final, ce Mario Tennis Fever, je l'aime bien, il y a rien de fou de révolutionnaire. mais voilà, je trouve qu'on passe un bon moment avec. Alors évidemment, de mon côté, hein, l'éditeur m'a fait parvenir un code de test, donc par rapport au prix d'un jeu Switch 2, c'est pas forcément la même, j'en conviens bien, mais voilà. C'est le type de jeu qui sont de toute façon meilleurs à plusieurs, je crois qu'il faut le garder aussi en tête, d'avoir quelqu'un en face de soi et d'être dans le mind game, de savoir où renvoyer la balle, je crois que c'est ça, et finalement ça nous renvoie aux heures de Pong, comme quoi le jeu vidéo parfois c'est un cercle qui se touche et on finit par revenir au début. Aujourd'hui également, je vous parle de Dear Me I Was, un jeu narratif développé par Arc System Works, sorti sur Switch 2 autour de son lancement l'année dernière et sorti le 12 février de cette année sur Switch, Steam, iOS et Android. La direction artistique de ce jeu est assurée par Taisuke Kanasaki et ça a son importance parce qu'il vient du studio Sing, C-I-N-G, à qui on doit Another Code et Hotel Dusk. Donc c'est un jeu qui est visuellement complètement dans son style. Ça raconte l'histoire de la vie d'une femme depuis son enfance par des petites tranches de vie. Le jeu dure environ une heure, il y a peu d'interactivité, pas de texte ou de dialogue dans le jeu, donc c'est un visual novel sans l'aspect novel, ou presque pas, c'est un visual novel entre gros guillemets muet, ce qui en soi est un twist intéressant sur le contexte. C'est vraiment un jeu de niche, hein, de niche particulièrement. Et personnellement, même si au départ j'avais un certain degré d'appréhension, j'étais sceptique, je me suis dit bienvenue chez PowerPoint quand j'ai commencé à jouer à Dear Me I Was, je me suis laissé séduire par plusieurs éléments. D'une part par le propos, parce que le jeu parle, sans trop vous spoiler tout le truc bien sûr, mais il vous parle de famille, il vous parle d'amour, il vous parle d'art, y compris de son propre art, de la pratique de l'art, et de la part d'un jeu qui a une composante artistique aussi centrale, c'est parfaitement pertinent. Et de la part d'un jeu qui est un visual novel sans texte, j'ai également trouvé intéressant le doute que le jeu instille en matière de choix. Est-ce qu'on accomplit le moindre choix quand on joue à Dear Me I Was, ou est-ce qu'on avance en ligne droite ? Je vais pas vous le dire, parce que franchement, je me suis fait ma propre idée au fur et à mesure du truc, et je veux pas vous gâcher la réflexion de savoir si c'est un cas ou c'est l'autre. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant en y jouant, en fait, de se poser cette question-là. Donc je vais vous laisser avec ce petit devoir, si vous décidez de jouer à Dear Me I Was, de réfléchir, est-ce que vous faites un choix à certains moments ou pas ? Est-ce que vous interagissez sur la narration ou pas ? C'est quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant. Voilà. Stylistiquement, encore une fois, visuellement, c'est très joli. Au-delà du dessin de Taisuke Kanasaki, il y a du rotoscoping. Donc ça donne vraiment une impression extrêmement vivante sur ces différents personnages. Et ça aide beaucoup à faire le pont par rapport au fait que la narration, l'interaction, tout ça est extrêmement limité. C'est à la limite quasiment pas un jeu vidéo. Même si ça l'est, par vertu du fait que c'est vendu dans une boutique de jeux vidéo qui ne vend que du jeu vidéo. Donc je trouve ça particulièrement intéressant comme calque de réflexion. J'étais sceptique, comme je vous l'ai dit. Finalement, j'ai trouvé que c'est un jeu qui est à la fois agréable et qui est beau. Ce sera un peu moins d'une heure, ça coûte vraiment pas cher. Je vous recommande, à titre personnel, comme petite gemme, le jeu Dear Me I Was. And that's all I need. Après la pause, on parle d'Hades 2 avec Antoine Villemain et on s'intéresse au jeu du 30e anniversaire de Rayman, mais tout de suite vous écoutez Snake Bananza sur la bande-son de Donkey Kong Bananza. Talk.
Hidden in the wild wood, sheltered by the dark, the silver sisters wait. The moon marks her passage silently, watching with the eyes.
Depuis le studio 01 de Blueprint, je m'appelle Yann Rieder et vous écoutez le jeu vidéo. Hades 2 est, comme le premier, un roguelite qui fait le trait d'union entre l'action RPG et le bullet hell. Ça signifie qu'il faut améliorer son personnage en triomphant des hordes ennemies, en évitant leurs attaques parmi lesquelles de nombreux projectiles. Et si l'on meurt, on recommence au début en ayant perdu certaines améliorations, celles qui nous sont confiées sous la forme de bénédictions par les dieux de l'Olympe. Le tout, j'ai vendu la mèche, dans un univers dérivé de la mythologie grecque. Sorti en Early Access en 2024, puis publié sur PC, Switch 1 et Switch 2 en 2025, c'est tout naturellement qu'on en parle en 2026 avec mon ami et collègue Antoine Villemin, journaliste et secrétaire de rédaction pour le journal Le Temps. Bonjour Antoine.
Salut Yann.
Pour commencer, je vais faire une analogie avec la gastronomie. Pour cette suite, est-ce qu'on nous propose un plat au goût différent ou plus ou moins la même cuisine qu'avant, mais en plus grande quantité?
C'est vrai que c'est une question intéressante, parce qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'ils nous fassent, bah voilà, Hades 1 plus 1, quoi. On nous ajoute simplement des... je vous en mets un peu plus, quoi. Et c'est pas tout à fait ça, en fait, j'ai l'impression. Il y a effectivement, le principe de base reste le même, hein. On est sur cette, comme tu l'as dit, un action RPG bullet hell. On a un peu le côté, un côté particulier pour un roguelite, c'est le côté très narratif d'Hades 1 et d'Hades 2. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup plus de progression dans la narration d'un run à l'autre, même si on fait moins bien qu'avant. Ça avance toujours, donc c'est le côté très propulsif qui avait fait le succès du 1 et son histoire particulièrement qui avait vraiment été l'élément, je pense, qui avait cimenté le statut un peu de pour beaucoup de jeux de l'année en 2000, je crois que c'était 2020-2021, d'Hades 1. Mais là, ils nous ont pas simplement fait plus, on aurait pu dire, ils nous font, voilà, c'est la même chose, éventuellement quelques armes différentes, des pouvoirs en plus, et puis un système en plus différent, par exemple de progression ou trucs comme ça. Et en fait, au lieu de faire ça, ils ont chaque fois ajouté une dimension à tous les aspects. Et c'est ça que je trouve intéressant dans Hades 2, c'est que c'est plus Hades x2 ou Hades au carré, si tu veux. Donc du coup, c'est, en termes gastronomiques, c'est plus comme si on t'avait proposé à chaque étape du menu une variante ou on t'avait amené des condiments en plus. Et du coup, il y a un goût différent quand même parce que fondamentalement, tout est plus complexe. Par exemple, l'exemple de base, c'est les attaques, les mouvements du personnage. Donc Zagreus, donc le héros du premier, avait une attaque simple, une attaque spéciale, un dash, une attaque dash quand on combinait l'attaque normale et le dash, et puis un pouvoir magique, une espèce de cristal missile guidé qui pouvait être lancé, faire un peu de dégâts, qui servait surtout de chablon, de canevas pour après être enrichi par des pouvoirs divins, comme d'ailleurs toutes les attaques. Là, alors, il y a les mêmes attaques fondamentalement, attaque de base, attaque spéciale, le dash. Le pouvoir magique est un peu différent, c'est pas un projectile, c'est une zone d'effet qui fait pas de dégâts de base mais qui ralentit l'ennemi. Et puis, la seule différence, c'est qu'il y a un sprint. Il y avait pas de sprint dans le premier. Là, si on maintient le dash enfoncé, ça fait un sprint. Et en fait, ça, c'est l'extension de ça, c'est que chaque attaque, en fait, a une fonction. Quand on la laisse enfoncer, elle utilise de la magie pour... donc, il y a une jauge de magie qui va modifier l'attaque, la rendre un peu plus puissante, mais aussi modifier la façon dont elle se comporte. Et chaque attaque a ça, en fait. Donc, de base, le pouvoir magique qui ralentit simplement l'ennemi, bah, si on l'étend, il fait des dégâts en plus, et il est plus grand. L'attaque de base, suivant l'arme, elle peut être plus puissante, elle peut être chargée, elle peut être une téléportation qui va directement vous mettre derrière l'ennemi, et ainsi de suite. Donc, chaque attaque a deux existences différentes. Ce qui était un peu le cas dans certaines armes du premier où il y avait des variantes, mais ce n'était pas le cas pour toutes. Là, c'est vraiment chaque mouvement, en fait, on doit décider est-ce que je fais la variante simple qui ne consomme pas de ressources, qui fait moins de dégâts, ou la variante compliquée qui me demande aussi un peu plus de temps, qui m'expose peut-être à des dégâts en plus. Donc, chaque attaque est un peu plus complexe. Et ça, ça interagit évidemment avec les pouvoirs, parce que les pouvoirs peuvent s'appliquer soit à la variante, aux deux variantes, ou seulement à la variante plus puissante. Ça implique aussi une gestion de la ressource de la magie qui se régénère entre chaque combat, mais on peut avoir aussi des pouvoirs qui la régénèrent. Elle peut servir aussi de manière de paiement. On peut se priver d'une partie de cette magie pour avoir des pouvoirs plus puissants. Et en fait, c'est le cas pour à peu près tout. La progression dans Hades 1 se faisait beaucoup avec le miroir qui permettait de choisir d'augmenter certaines caractéristiques, donc persistantes qui permettaient à Zagreus d'avoir des persistantes. Là, on
les améliorations permanentes.
Voilà, bah, une partie de ces améliorations permanentes dans un dessin, c'était ce miroir où on pouvait choisir éventuellement une variante. On pouvait choisir, par exemple, d'avoir soit on avait des régénérations, 4 retours à la vie pendant le run, ou enfin d'abord 1, puis 2, puis 3, puis 4, ou alors on pouvait avoir un truc qui donnait un retour potentiellement à chaque combat, mais beaucoup moins puissant. C'était des choix binaires. Là, en fait, il y a des cartes qu'on peut choisir d'arranger comme on veut. Donc on peut complètement se priver d'une amélioration, peu importe sa variante. On peut se priver, par exemple, d'avoir la régénération complètement. Mais en échange, on peut prendre une autre amélioration qui va complètement changer quelque chose d'autre. Et c'est un système de budget avec des points, ça coûte plus ou moins cher. Donc au lieu d'avoir simplement un truc binaire, on a vraiment 3 dimensions, en fait, quelque part. Et c'est à peu près ça pour tout, en fait. Les pouvoirs divins sont plus complexes, les pouvoirs des améliorations permanentes sont un peu plus riches. Et alors, je vais peut-être un peu spoiler le jeu, mais vous avez sûrement entendu parler de ce fait. Là où Hades 1 avait 4 environnements qu'on suivait toujours dans le même ordre pour atteindre le boss final, Hades 2, un des gros changements, c'est d'avoir 2 environnements. Enfin, deux directions différentes avec chaque fois 4 environnements. Et c'est ça elle-même, c'est les environnements eux-mêmes qui étaient des chambres assez plus ou moins grandes dans Hades 1, mais qui étaient toujours plus ou moins du même style. On a une chambre, on l'abat, puis après on peut choisir 2 ou 3 chemins différents. Là, c'est systématiquement, à part le premier niveau peut-être qui est un peu comme ça, tous ont des variantes plus complexes. Par exemple, dans un, les 2 premiers environnements du premier run, si on veut, sont assez similaires, mais à partir du troisième, c'est complètement différent. On a un système où on peut choisir un chemin rapide contre dans un certain environnement, c'est un chemin rapide où on prend le chemin de traverse. On peut choisir, c'est des grandes zones où il faut choisir différents combats et on a des ennemis en plus qui peuvent vous attaquer. Bref, chaque environnement va avoir des variantes de fonctionnement aussi. Donc, tout ça, c'est pour dire que c'est pas simplement la même recette en plus grande quantité, mais c'est pas non plus un plat au goût différent, parce que c'est fondamentalement le même principe, mais simplement beaucoup plus complexe.
Toujours cet équilibre difficile à trouver avec une suite de jeux vidéo, qui plus est pour un jeu aussi apprécié par la critique, par le public.
Mais pour dire de ce côté-là, je pense que c'était le meilleur choix possible, parce que c'était en faire plus, mais avec fondamentalement la même recette, en ajoutant juste peut-être 1 ou 2 systèmes de plus, un système de craft ou un système de pouvoir magique en plus, mais qui se serait simplement vu se greffer sur l'existant, ça aurait peut-être été pas autant. Ça n'aurait pas été aussi riche que ça, qui, dès le début, vous impose des façons de voir le jeu différemment, en fait. Le gameplay est complètement différent à cause de ça, mais en plus, il est plus riche.
Pour moi, ça rappelle beaucoup l'évolution de Spelunky 1 à Spelunky 2, où en fait, même si Spelunky 2, c'est le même en mieux, avec plus de contenu, plus de variété, plus de mécanique, il est entre guillemets tellement justement sophistiqué et difficile pour le coup dès le départ, même si c'est moins le cas je pense avec Hades 2, que il vaut mieux jouer au premier jeu d'abord, puis ensuite au suivant. Les deux se justifient complètement pour un nouveau joueur.
Pour moi, le parallèle, juste si je peux juste faire un autre parallèle, ce serait l'équivalent de passer de Breath of the Wild à Tears of the Kingdom, par exemple.
Oui, voilà.
C'est assez similaire. C'est vraiment c'est pas simplement on a des pouvoirs en plus ou légèrement différents. C'est les pouvoirs qu'on a maintenant, ils amènent une façon complètement orthogonale de jouer, en fait. Donc, ça, on part vraiment dans une autre dimension. L'opposition, ce serait quelque chose comme, je sais pas si tu as joué au jeu Rogue Legacy. C'était aussi un roguelite avec une espèce de. Là, le concept, c'était que chaque fois, tu incarnais un des enfants de ton personnage précédent. Rogue Legacy 2, fondamentalement, il renouvelait pas. C'était plus dans cette direction du. Bah voilà, c'est plus complexe, on a plus de possibilités, mais il n'y a pas autant de variantes possibles qu'avec Hades 2. Je crois.
Toi qui as investi un grand nombre d'heures dans le premier jeu, je crois une centaine, est-ce que tu as trouvé le même goût de reviens-y à ce Hades 2 ?
Alors, dans le moment, oui. C'est-à-dire que j'ai pas mal poncé le jeu à sa sortie. J'ai fait peut-être une quarantaine d'heures en tout. Assez intense pour arriver à la fin de base du jeu, disons, en tout cas au crédit. Après, il y a un épilogue plus ou moins long qu'on peut, comme dans un dessin, on peut aller plus loin dans certaines directions. Il y a des personnages qu'on peut aller, on peut travailler la relation avec les personnages, on peut débloquer des armes en plus, on peut débloquer des pouvoirs en plus. Bref, il faut dire aussi qu'ils ont entre-temps changé un peu certains éléments du récit, et du coup, on peut revenir en arrière et revoir certaines choses d'une façon différente. Maintenant, je dirais que ça m'a pas autant. J'ai pas été autant captivé, disons. J'ai beaucoup joué parce que le gameplay était vraiment. Effectivement, du côté gameplay, simplement le fait d'avoir ces deux disons, c'est deux pistes différentes. Ça fait beaucoup. Dans Hades 1, bah voilà, tu finissais face à un boss, tu savais que si tu revenais en arrière, si tu mourais et que tu revenais à la case départ, tu allais peut-être te heurter au même boss. Là, tu peux, si tu maîtrises mieux une zone qu'une autre, bah tu peux dire, ah là, j'ai fait 2-3 fois cette zone-là et je bute contre un truc, bah je vais me changer les idées en faisant un run différent, en allant dans un environnement différent, me rafraîchir ou chercher d'autres ressources. Tu peux un peu plus gérer ta progression comme ça, tu dois faire les deux évidemment, mais tu peux gérer ta progression un peu différemment. Du coup, là, pour le coup, c'est un peu plus agréable sur le moment. Je suis pas sûr que je sois j'ai été aussi captivé, par contre, par le... Et pour moi, le point faible d'Hades 2, justement, c'est que l'histoire, mais c'est un peu par définition, ne peut pas avoir la même richesse que le premier, qui était vraiment... qui avait cette combinaison parfaite de la narration. C'est-à-dire que le principe, c'est qu'on incarne Zagreus, qui était le fils d'Hadès, enfin, qui est le fils d'Hadès, qui cherche à retrouver sa mère, qui est plus aux enfers depuis très longtemps... Et il y a tout, justement, la quête de sa mère, la relation avec son père, qui est d'abord très, très... Parce que son père essaie de l'empêcher de partir. Puis après, il y a toute cette relation entre les deux qui se développe au fur et à mesure. Là, pour le coup, il n'y a pas ce côté-là. Parce qu'on incarne Mélinoé, qui est donc la sœur de Zagreus, qui est née après les événements du premier. Mais il se trouve que Cronos, le dieu, le titan du temps, a réussi, le père d'Hadès, a réussi à s'échapper et à emprisonner la famille de Mélinoé, qui doit les libérer et qui a été pour le coup entraînée par Hécate, la déesse de la magie. Et en fait, ce côté est moins complexe parce que la relation elle est beaucoup plus. Voilà, on doit aller sauver la famille, on sait qu'ils sont gentils. Il y a un peu ça avec certains personnages qui sont développés un peu différemment, mais ça reste beaucoup moins. Bah, c'est moins original parce que Hadès 1 l'a déjà fait d'une certaine façon, mais c'est aussi. Disons un peu frustrant dans le sens où il y a moins de conflits. Il y a beaucoup moins de conflits entre les personnages eux-mêmes. Il y a un conflit avec l'antagoniste, évidemment, qui va être un peu après... alors, je ne vais pas vous spoiler plus avant, mais il y a évidemment pas... On n'est pas dans un univers où on tue les méchants et après, voilà, ils sont enterrés et puis on passe à autre chose sur leur cadavre. C'est vraiment beaucoup plus complexe que ça. Mais ça reste plus frustrant et moins... C'est beaucoup plus Deus Ex Machina, ironiquement, que le premier, par exemple. C'est difficile d'en parler sans trop spoiler, hein, mais je n'ai pas envie de vous gâcher le truc. Mais je trouve ça moins riche et moins complexe. Ça se repose plus sur des arcanes, disons, des effets de manche un peu, pas paresseux, mais qui sont moins originaux et moins naturels, en fait. C'est beaucoup moins... Le premier était très... On parlait de dieux, de personnes, voilà, littéralement plus larges que la vie, mais il y avait un côté quand même naturaliste dans les relations entre les personnes. C'était des relations complexes qui pouvaient être qui étaient très intéressantes à explorer. Là, beaucoup moins, je trouve. On est beaucoup plus dans du il y a des dimensions comme ça, mais c'est pas le cœur du jeu, c'est plus sensilière, alors que dans le premier c'était vraiment un truc vraiment fondamental, quoi.
Pour terminer, en quelques mots sur les personnages, justement, ces personnages de la mythologie grecque, qu'est-ce que tu penses de l'usage qui en est fait par Hadès 2, sachant que certains dieux qui n'étaient pas dans Hadès 1 apparaissent dans Hadès 2. Ce rapport avec la mythologie grecque, il fonctionne toujours bien ?
Alors ça, pour le coup, ouais, c'est pas le plus gros problème. Le fait, d'ailleurs, un des aspects intéressants d'Hadès, c'est d'avoir de se reposer sur vraiment la complexité de la mythologie grecque, parce qu'on a cette image de très très canonique. Vous savez, on a une idée très définie de la mythologie grecque. Il y a Zeus, il est comme ça. Il y a Athéna, il y a Héra. La mythologie grecque, en fait, c'est beaucoup plus complexe parce que ce qu'on a comme ça, c'est quelques textes, quelques grands textes un peu vagues. Mais en fait, on a des tas de trucs qui sont, quand vous creusez un peu, il y a des incarnations tout à fait différentes, le même dieu à deux villages d'intervalle, il peut être complètement perçu complètement différemment, et il y a des dieux très obscurs, comme justement Zagreus, qui est dans certains mythes un aspect de Dionysos, dans d'autres c'est vraiment le fils d'Hadès. Pareil, Mélinoé, voilà, elle a aussi c'est une figure beaucoup moins connue, qui est dans certains cultes, disons, chthoniens, qui est particulière, mais qui n'est pas toujours très présente. C'est l'usage que fait Hadès de ces figures moins connues de la mythologie grecque, là, en l'occurrence, le coup de projecteur un peu sur les divinités magiques, justement, se reposer sur des figures comme Séléné, comme Hécate, comme Artémis, et le fait que ce soit des relations un peu, justement, orthogonales à la hiérarchie de l'Olympe. Par exemple, Artémis, qui est très présente comme une déesse de l'Olympe assez classique dans le premier, là, elle a une relation tout à fait différente, beaucoup plus horizontale, qui est différente même, elle n'a pas le même rapport à Mélinoé que les autres dieux de l'Olympe, alors que c'était beaucoup plus univoque dans le premier avec Zagreus, où tout le monde est un peu dans la même direction. Là, il y a clairement des trucs intéressants, des éléments intéressants. Maintenant, voilà, c'est un peu frustrant parce que, comme j'ai dit, c'est moins on se repose moins sur ces relations-là pour l'histoire elle-même. Et dans sa première version, d'ailleurs, dans la version de l'histoire et de la fin originale qui a été depuis changée, hein, ils ont fait des altérations. Il y avait un peu... C'était dommage parce qu'ils n'exploitaient pas justement ces nouveaux personnages qu'ils introduisaient. Ils se reposaient beaucoup, je trouve, sur l'affection qu'on pouvait avoir pour les anciens. Maintenant, ça a été un peu rééquilibré, de ce que je comprends. Pour moi, c'est un usage super intéressant parce que c'est pas l'usage classique. Ça explore la complexité de cette mythologie, les rapports entre mortels et dieux. Vraiment, c'est une chouette. C'est assez profond en termes de. Ils vont creuser assez loin pour chercher des figures et même les ennemis et les NPC, les personnages disons qui vous aident et qui sont là sont parfois bien trouvés. Alors c'est pas toujours les plus originaux. Hein. On a Circé, Médée, Icare, c'est des figures quand même assez connues, mais qui sont pas simplement traitées de façon unidimensionnelle. Elles ont vraiment, chaque fois il y a ce côté original et évidemment ce côté un peu réinventé, modernisé. Alors évidemment c'est pas toujours l'avantage d'avoir cette approche-là, c'est qu'on n'est pas tenu à une approche canonique entre guillemets. Par exemple, la relation entre Hadès et Perséphone, bon, techniquement, c'est sa nièce en fait. Hein, c'est la fille de Perséphone, c'est la femme d'Hadès, mais c'est aussi la fille de son frère et de sa sœur. Donc c'est le côté un peu glauque parfois de la mythologie grecque a été un peu largement évacué quand même dans cette version de l'histoire. Mais du coup, c'est une approche intéressante. Je crois qu'on en avait parlé à l'époque d'ailleurs dans un podcast. Dans le Player Club, hein, quand Hadès était sorti. J'avais déjà dit à l'époque, je crois qu'il y a ce côté un peu à la fois... clairement, ils connaissent très bien la mythologie grecque, mais en même temps, ils ne se sentent pas tenus de faire tout comme dans une source précise, la version, l'imagerie, le grand imagier de la mythologie grecque que vous avez à la bibliothèque quand vous avez 7-8 ans. Et c'est vraiment très, très, très positif parce que du coup, c'est un côté très riche. C'est à la fois passionnant si vous vous intéressez un peu à la mythologie grecque et à la pratique de la religion dans la Grèce antique, mais c'est quand même original, c'est quand même, ils peuvent faire des trucs qui sont propres à eux. Et non, pour le coup, Supergiant, t'as fait un super boulot de ce point de vue-là. Voilà, mon bémol, c'était vraiment le côté un peu... Mais c'était difficile de dire ce qu'ils auraient pu faire pour rendre la chose, plus efficace du point de vue narratif, parce que le premier, se reposait tellement sur un truc qui ne pouvait pas être répété, en fait. Je suis même pas sûr que rejouer à Hades 1 depuis le début avec une nouvelle sauvegarde ait le même effet que d'y jouer vraiment la première fois sans savoir à quoi s'attendre, parce que l'effet était tellement bien réussi dans ce côté, cette surprise de voir toujours le jeu évoluer même face aux échecs. C'est très difficile de refaire ça, on se remet pas deux fois dans la même rivière, quoi. Mais ouais, globalement ça reste un excellent jeu, hein, d'un point de vue, même du point de vue purement mécanique.
La rivière du Styx, évidemment. Hades 2 est un jeu de Supergiant Games disponible sur PC, Switch et Switch 2. Quant à toi, Antoine, tu travailles pour le journal suisse Le Temps et on peut également t'entendre dans le podcast Rex Quondam Rexque Futurus. Merci et à bientôt.
Ciao, ciao.
Let me tell you the story of Rayman.
En ce mois de février 2026, et pour fêter un peu en retard le 30e anniversaire de son premier gros succès, Ubisoft a fait équipe avec l'éditeur Atari et le studio Digital Eclipse pour proposer Rayman 30th Anniversary Edition sur PlayStation 5, Switch, Switch 2, Xbox Series et Steam. J'y ai joué et en tant que fin connaisseur de la licence, je n'y ai malheureusement pas trouvé mon compte. Mais pourquoi ? Histoire de le clarifier un petit peu, j'ai découpé cette critique en trois morceaux. Commençons avec ce qui est réussi. Tout d'abord, le choix des jeux. Et entendons-nous bien. On y reviendra plus tard sur le choix des jeux, mais dans la perspective de rassembler Rayman 1,
le premier Rayman, le fait d'avoir la version Jaguar qui est un peu la version centrale en termes de développement, et également la version PlayStation qui est la version centrale en termes de sortie pour le public, mais aussi la version MS-DOS et ses différentes extensions, c'est très chouette parce que ça apporte beaucoup de variété. Et enfin, on a une quatrième version, la version Game Boy Color, une cinquième version, la version GBA, la version GBA qui est une version compressée de la version originale, tandis que la version Game Boy Color, elle, est complètement autre chose. Autre chose de chouette et de réussi là-dedans, c'est le fait de pouvoir reprogrammer les touches. C'est tout simple, c'est tout bête, mais c'est bigrement efficace et toutes les collections ne le proposent pas avec autant forcément de facilité. Donc chapeau à Digital Eclipse pour proposer quelque chose qui fonctionne bien de ce côté-là. Pareil, le mode 16/9 qui est inclus avec la version PlayStation, avec un petit hack, on imagine, à travers de l'émulation, est du plus bel effet. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne change pas les zones de déclenchement des différents scripts au cours du jeu, ce qui fait qu'on va voir apparaître dans les bords certains éléments qu'on n'aurait pas vu apparaître dans la version 4 tiers. Ça pose pas un problème. Pareil pour les quelconques combats de boss, par exemple, où c'est limité à une arène qui était faite pour du 4 tiers, le jeu redevient brièvement 4 tiers pendant cette partie-là. C'est pas idéal, c'est la solution du moindre effort, mais c'est une bonne solution pour être fidèle tout en proposant quelque chose de joli si on souhaite, ce qui est une option là aussi, avoir ce mode 16/9. Au final, c'est que les modes CRT affichés par défaut qui sont un peu moches, mais ils sont désactivables bien sûr, donc ça ne prend que quelques instants pour le faire. Il y a un petit documentaire qui inclut une bonne cinquantaine de minutes d'entretien en vidéo avec les différents créateurs de l'époque, mais aussi avec les pontes de l'époque, et Dieu sait que c'est intéressant d'entendre parler de la politique du télétravail à l'époque et comment il était valorisé par exemple par quelqu'un comme Michel Ancel, ou en creux du coup par quelqu'un comme Yves Guillemot qui était déjà aux responsabilités chez Ubisoft et qui loue la créativité de Rayman, et de l'autre côté Michel Ancel et son camarade Oud qui disent ah là là on travaillait depuis Montpellier, c'était quand même cool de pouvoir faire les choses à distance. Oui, les choses ont un petit peu changé de ce côté là apparemment, et ça permet d'avoir cette perspective qui est assez intéressante, et de remettre peut-être en question le récit, ou en tout cas de le remettre dans un certain contexte. Peut-être que le télétravail est adapté à certaines situations, pas à d'autres, et peut-être pas à limiter de manière aussi stricte, aussi dogmatique peut-être, que souhaite le faire Ubisoft actuellement. C'est quelque chose qui est difficile, c'est difficile de pas faire le lien, disons, avec les revendications des salariés et des syndicats d'Ubisoft aujourd'hui. Enfin, avoir demandé à Christophe Herald de faire la nouvelle bande-son, parce qu'il y a une nouvelle bande-son dans ce jeu, c'est une bonne idée en soi, parce que Christophe Herald, d'une part, est un compositeur compétent, et de l'autre côté, est quelqu'un qui est très proche à la fois de Rayman, puisqu'il a composé les bandes-sons, co-composé les bandes-sons de Rayman Origins et de Rayman Legends, mais en plus, parce que c'est quelqu'un qui connaissait bien Rémi Gazel, feu le compositeur principal de ce premier Rayman, avec qui il a interagi plein de fois, il était dans des interviews avec lui, il a fait des petits concerts avec lui, donc ils se connaissaient bien, ils partageaient une énergie artistique ensemble, et du coup c'est tout naturel, c'est tout logique, et d'une certaine manière c'est tant mieux que Christophe Herald ait accepté la proposition de travailler là-dessus. Ce qui est dommage, et on entre maintenant dans la deuxième catégorie de cette critique qui est les aspects dommages de cette compilation, c'est que cette nouvelle bande-son n'est pas au niveau de la première. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que la bande-son a dû être remplacée? Est-ce que c'est pour des questions de droit? Est-ce que c'est pour des raisons créatives où ils se sont dit il faut que ce soit dans comment dire, l'esthétique Rayman Origins, Rayman Legends que les gens connaissent aujourd'hui? C'est pas bien clair, mais la bande-son en tout cas originale de Rayman par Rémi Gazel est tellement... Je vais utiliser ce terme-là, est tellement iconique, est tellement fait tellement partie, à mon sens, des meilleures bandes-son de jeux vidéo, parce qu'elle tente tellement de choses à une époque où on ouvre les portes de ce qui est possible avec la technologie CD pour le son, que c'est vraiment dommage de s'en passer, à la fois pour des raisons historiques et en même temps pour des raisons créatives. Il y a certains morceaux qui sont sympas, c'est d'ailleurs ceux qui se rapprochent le plus des compositions des compositions du jeu original, mais de l'autre côté, malheureusement, il y a beaucoup de morceaux qui sont moyens et certains morceaux qui ne sont vraiment pas bons, dont celui qui joue, à mon sens en tout cas, dont celui qui joue, à l'écran titre et sur la carte, et ça, c'est un petit crève-cœur, à mon sens. Je veux quand même être très précis dans ce que j'ai dit. Je sens que tout le monde a fait ce qu'il a pu avec les moyens qui étaient à la disposition, peut-être qu'il n'y avait pas un budget de temps et ressources qui étaient particulièrement généreux pour finalement ce qui semble être un petit projet de collection pour les 30 ans de Rayman. Rayman n'est pas une priorité pour Ubisoft, on le sait. Donc ça n'est pas étonnant. Et au demeurant, je l'ai dit, Christophe Herrall est un très bon compositeur. Il l'a prouvé notamment avec Rayman Origins et Rayman Legends. Mais c'est une question à la fois de stylistique, je pense, par rapport à ce que ce jeu est. Et de l'autre côté, au fait que, désolé pour ce coup-là, on, visiblement, comme tout le monde, Christophe Herrall n'est pas parfait, ne peut pas tout réussir. Christophe Herrall est un homme tellement sympathique, j'ai eu l'occasion de l'interviewer, comme j'ai eu l'occasion d'interviewer Rémi Gazel, tous les deux très généreux avec leur temps, très sympathique, et ça me fait mal de dire ça de son travail à Christophe Herrall, vraiment, mais là, pour le coup, j'ai trouvé que c'était dommage, et c'est d'autant plus dommage qu'on ne peut pas jouer la bande-son originale du jeu là-dedans, dans cette compilation. D'autant qu'à mon sens, quitte à changer la bande-son, il aurait fallu refaire les effets sonores qui vont avec. En l'occurrence, ça n'a pas été fait, et du coup, ça fait vraiment ton sur ton. Les jeux sont uniquement en anglais, et ça aussi c'est dommage, parce que Rayman a été traduit dans un certain nombre de langues, et là, pour le coup, c'est vraiment visiblement que les ROM nord-américaines qui ont été inclus dans cette compilation. Et pareil, quitte à fêter les 30 ans de Rayman, personnellement, je trouve que, comme Rayman 2, Rayman 3 et Rayman Origins restent pour la plupart des supports aujourd'hui, c'est-à-dire sauf le PC et la Xbox, inaccessibles sur les PlayStation de dernière génération, Switch 1, Switch 2, il y a une vraie opportunité de porter ces jeux-là parce que c'est des jeux qui sont intéressants pour leur époque et en même temps qui sont encore sympas à jouer aujourd'hui. Rayman Origins fait partie, à mon sens, des canons du jeu de plateforme 2D. Il est aussi bon que ça et il manque aujourd'hui en termes de catalogue. On passe à la troisième partie de cette critique et ce qui est un véritable problème. Et on rentre vraiment dans le territoire de ce qui me fait dire que je ne recommande absolument pas l'achat de cette compilation si vous êtes hésitante ou hésitant. Premièrement, il y a un problème de sauvegarde sur les versions Jaguar et MS-DOS si on utilise autre chose que les save states qui sont inclus au menu, et ça fait mal. D'autre part, la bande-son joue deux fois dans la version Jaguar en simultané, vraisemblablement partout. Ce qui est super dommage parce que la version Jaguar, c'est la version, à mon avis, que tout le monde devrait découvrir parce que c'est la version qui a été bossée par le core group du développement de Rayman. Vraiment, c'est de là que vient le jeu en quelque sorte, même si évidemment il est issu d'abord d'expérimentation sur Super Nintendo, puis ensuite le développement s'est fait sur Jaguar et il a été porté sur les autres supports par Ubisoft, je crois, à Paris. En un temps record et sur un nombre de plateformes record d'ailleurs pour l'époque, un truc qui leur a réussi puisque ça leur a permis d'avoir le lancement PlayStation. Mais en soi, le jeu central un petit peu à tout ça, le jeu Jaguar, du coup, est pas dans des jouable dans des conditions extrêmement agréables étant donné que c'est une véritable cacophonie. Et je dis ça d'autant que la version Jaguar, donc c'est une version MIDI puisque c'était une cartouche, sauf erreur, ce qui signifie que ils ont dû refaire des compositions. Ils ont dû en fait adapter la nouvelle bande-son de Christophe Herrall sur Jaguar, sur Game Boy Color et sur Game Boy Advance. Mais du coup, et pour une raison que je m'explique pas, l'implémentation a pas marché, en tout cas dans la version Switch à laquelle je joue, et qui fait jouer à la fois les morceaux originaux qui ont été faits par Herrall pour l'occasion, réadaptés par Digital Eclipse pour rentrer dans ce chiptune, et puis de l'autre côté, les morceaux de Rémi Gazel qui visiblement jouent en fond également en parallèle. C'est très curieux. Également, il y a pas moyen de choisir cette bande-son donc de Rémi Gazel, pas d'explication. Je le répète juste parce que ça fait vraiment partie des quasi-deal-breakers de ce côté-là. Les adaptations Game Boy Color et Game Boy Advance avec cette nouvelle bande-son, à mon avis, ça colle pas. Autant on peut encore tenir l'argument sur la version PlayStation et le reste parce que c'était une console CD. Là, je suis perplexe, d'autant qu'elle avait déjà été modifiée pour la GBC et la GBA. C'est pas les exactes mêmes compositions d'Herald, donc je sais pas également si c'était véritablement une considération de droit pour ces deux-là ou si on était en plus dans le domaine de bah maintenant qu'on l'a changé pour les autres versions, autant être en cohérence. Tout ça mériterait quelques éclaircissements de la part de l'éditeur. Il n'y a pas d'input lag, contrairement à ce que j'ai pu lire, en tout cas c'est mon ressenti, mais
il y a un retard de tous les effets sonores d'environ 0,5 secondes à chaque fois que vous donnez un coup de poing, retombez sur le sol, etc. Tous ces petits effets sonores-là ont un décalage qui, je crois, ne sont pas présents dans les versions originales PlayStation, Jaguar, etc. Donc ça m'a assez frappé. Et enfin, le système d'aide et d'accessibilité est mal expliqué. En fait, l'idée, c'est qu'avant de créer un fichier de sauvegarde, vous allez les attribuer. Vous allez dire, bah voilà, est-ce que je veux les vies infinies? Est-ce que je veux débloquer tous les niveaux, etc. Et ensuite, vous créez votre fichier de sauvegarde. Et c'est là que ces effets sont, entre guillemets, loqués pour cette sauvegarde. Et ensuite, vous ne pouvez pas les retirer ou les réactiver de ce fichier de sauvegarde-là. Si vous voulez une composition différente en matière d'accessibilité et de système d'aide, il faut créer un nouveau fichier de sauvegarde parmi les trois safe states qui sont proposés. Et ça me paraît compliqué d'une manière qui n'est pas nécessaire. Je pense qu'il faudrait repenser ce menu-là si un jour il y aura une mise à jour de ce jeu, ce qui n'a pas l'air garanti. Donc voilà pour le bilan. Vraiment, je ne le recommande pas et c'est dommage parce que Rayman est un jeu qui est très proche de mon cœur pour tout un tas de raisons. J'espère que ça va bouger du côté d'Ubisoft Atari et qu'ils vont débloquer les budgets et le temps nécessaires pour motiver plusieurs patchs de ce côté-là, peut-être même trouver un moyen d'avoir la sélection des différentes bandes son, qui sait, et puis s'atteler un jour, je pense que ce serait bien, sur les supports actuels, à republier nos amis Rayman 2, Rayman 3 et Rayman Origins. C'est tout pour aujourd'hui, merci à vous d'avoir écouté cet épisode, n'oubliez pas que vous pouvez nous dire ce que vous pensez de cette émission en écrivant à l'adresse vous@blueprint.pm ou en me contactant sur bluesky@yannrdr ainsi que dans l'espace notes et avis de votre application de podcast. Cette émission a été montée par Grégory Yenko et Franck Extanasier, merci à Clément Montini et Antoine Villemin d'avoir répondu à mes questions. Vous venez d'écouter le jeu vidéo, je m'appelle Yann Rider, bonne matinée. Bon après-midi, bonne soirée et bonne nuit !